Bonjour Monseigneur Benoît Quint.
Bonjour Isabelle.
Alors depuis Pâques, nous lisons les Actes des Apôtres. Le deuxième chapitre donne des indications sur la vie fraternelle et la prière des apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Vous nous aviez parlé, Monseigneur Benoît Quint, la dernière fois de la réorganisation territoriale des paroisses. Comment concrètement cette nouvelle organisation permet-elle de vivre finalement, comme les apôtres, les cinq essentiels, la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation?
Mais écoutez, je crois d'abord que ce qui est beau dans ce temps de Pâques, c'est que l'Église nous donne de lire les Actes des Apôtres dans sa quasi-intégralité. Et les Actes des Apôtres nous parlent de la première communauté chrétienne et je crois qu'on a sans arrêt à y revenir. Hein, c'est une communauté qui se rassemble, c'est des hommes, des femmes qui se retrouvent, les premiers disciples se retrouvent, se soutiennent, partagent leurs biens, prennent le temps de la prière, de la célébration, marchent ensemble finalement, méditent la parole de Dieu, enfin ce qu'ils ont vécu avec Jésus, parce que la parole de Dieu, ils n'ont pas le livre de la Bible en main, mais ils ont ce qu'ils ont vécu avec Jésus, et marcher ensemble, méditer la parole de Dieu, écouter ce que l'Esprit nous dit, c'est ce à quoi les Actes des Apôtres nous invitent, et c'est ce à quoi l'Église est appelée de tout temps. Quand on parle de la synodalité, c'est bien de cela. Alors c'est vrai que la réorganisation des paroisses en Ariège, c'est pas d'abord une question d'organisation territoriale, oui. C'est d'abord une question d'accueil du souffle de l'esprit dans la vie d'hommes et de femmes qui sont l'Église en Ariège. Et je crois que la manière dont on s'est réorganisé, les équipes d'animation pastorale nous disent comment nous avons à nous tenir ensemble, à faire communauté. Et je crois que la première chose essentielle pour l'Église, c'est de répondre à ce rendez-vous de la communauté. Il y a trois rendez-vous que j'aime rappeler pour la vie des chrétiens. C'est le rendez-vous avec la parole de Dieu, le rendez-vous avec Pâques, qui nous fait toujours passer de la mort à la vie, et puis le rendez-vous avec une communauté, parce qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Et c'est un rendez-vous qui nous permet aussi de nous construire comme communauté, mais aussi de puiser toute la dynamique nécessaire à la mission à laquelle les baptisés sont appelés. Alors quand on met en place une nouvelle organisation territoriale comme on l'a fait au mois de décembre, c'est il y a quelques mois,
oui, c'est récent.
Nous avons eu il y a peu la première rencontre des EAP du diocèse, une quarantaine de personnes qui sont en fait des équipes d'animation pastorale qui se tiennent aux côtés du pasteur de la communauté. Des prêtres.
Vous les avez rencontrés le 11 avril dernier. Quel était l'objectif de cette journée, en fait?
Alors, l'objectif, c'était déjà qu'ils puissent se croiser, se retrouver, se reconnaître et échanger ensemble sur la manière dont leur communauté est en train de renaître ou de se constituer ou de se reconstituer, j'ai presque envie de dire, ou comment ils vont se mettre au service de la communauté, parce qu'ils sont en fait envoyés et missionnés par l'évêque, et ils partagent service, responsabilité, pour que s'accomplisse au mieux la charge pastorale du prêtre au titre de son ordination. C'est une vraie collaboration, j'ai envie de dire prêtre laïque, voilà, évangéliser, sanctifier, rassembler le peuple de Dieu dans la communion et l'unité, quoi. L'équipe d'animation pastorale, elle doit travailler de manière synodale. Et ça, c'est quelque chose qui est un réflexe pour beaucoup de chrétiens, mais qui est aussi un chantier d'apprentissage pour beaucoup de chrétiens aussi, et pour des prêtres aussi, hein. Se mettre à l'écoute de l'esprit pour accomplir une mission, prendre le temps de regarder, de discerner, décider finalement la volonté de Dieu pour le bien du corps entier. C'est pas moi qui décide, c'est pas monsieur le curé qui décide, c'est pas madame Dupont-Loup au fond de la sacristie qui décide, c'est le peuple
c'est
de
le
Dieu ensemble. Voilà, le corps entier.
Oui. Vous avez travaillé cet hiver sur une charte des équipes d'animation pastorale, les EAP, et vous avez pu approfondir leur rôle dans la paroisse. Il est effectivement ce ferment d'unité, ce témoin de la communion. Est-ce qu'il a d'autres rôles?
Alors, l'équipe d'animation pastorale, elle a des missions principales, hein, je le disais, sanctifier, annoncer la parole de Dieu, gouverner aussi, voilà. Mais derrière tous ces grands mots qui disent un peu la charge pastorale propre du prêtre au titre de son ordination, il y a des services concrets, l'initiation chrétienne, l'intelligence de la foi, comment nous accompagnons les catéchumènes aujourd'hui,
et
ou
oui,
les enfants dans l'étape de la catéchèse, la prière, la liturgie, la célébration de la vie et des sacrements. Ça touche à l'ensemble de la vie liturgique de l'Église, comment nos eucharisties, nos funérailles, nos mariages sont des vitrines de la vie de l'Église, de la communauté de l'Église et sont des visages du Christ aussi, comme au service des petits, des pauvres, le soin du malade, l'accompagnement des oubliés de la vie sont aussi des services auxquels les équipes d'animation pastorale doivent veiller, et puis tout ce qui touche à la communication, à l'information, sans oublier aussi la dimension du temporel, parce qu'une communauté ne vit pas hors du temps. La première communauté chrétienne, et on le trouve dans les Actes des Apôtres, mettait tout en commun.
Oui,
ils se soutenaient, ils mettaient en commun, partageaient leurs biens. Mais la dimension du temporel, elle fait toujours peur dans l'Église, parce qu'on a peur de parler d'un déficit, on a peur de parler d'une dépense, on a peur de parler du denier de l'Église, on a peur de parler des besoins de l'Église, et parfois on est montré du doigt. Non, la première communauté chrétienne se soutenaient en partageant leurs biens, mais aussi leur temps. Et c'était pas simplement un idéal, c'était pour la mission. Tout était pour la mission. Quand on lit le chapitre 2 des Actes des Apôtres, hein, tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, mais c'était pour la mission.
Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pensez que, justement, dans ce travail des équipes d'animation pastorale, il y a quelque chose à réinventer ou quelque chose à redécouvrir plutôt?
Bon, je crois qu'on a à redécouvrir... j'ai envie de dire ce chapitre 2 des Actes des Apôtres, à le vivre, à le mettre en acte, en parole. Et c'est ça que beaucoup de jeunes attendent aussi, j'ai envie de dire. Quand on fait un PLVTT, voilà, on n'a pas envie de rentrer chez soi, à la maison, parce qu'on a vécu une expérience de communauté tellement, tellement belle, tellement forte. Ou plutôt, si on a envie de rentrer chez soi aussi, mais pour partager ce qu'on a vécu. Et je crois qu'il y a cette tension toujours entre la communauté qui se rassemble, qui se retrouve et qui vit une dimension missionnaire. Et tous les baptisés sont appelés à ça. On n'a pas envie de se quitter, mais c'est Pierre et Jean sur la montagne, là-haut.
Exactement, qui ne veulent pas descendre après la
transfiguration. On va monter une tente, on va dresser trois tentes, on va rester là-haut. C'est les compagnons sur la route d'Emmaüs qu'on entend dans le temps de Pâques aussi, hein, le soir même de Pâques. Restons dans l'auberge, reste encore un peu, installe-toi, viens avec nous. Et le ressuscité prend du temps avec eux. Ils n'ont pas envie de se séparer et en même temps, ils ont besoin de ce rendez-vous de la communauté, puisque juste après avoir reconnu le ressuscité à l'auberge, Cléophas et l'autre compagnon prennent leurs jambes à leur cou et rentrent chez eux à Jérusalem. Je dis bien chez eux parce qu'ils vont retrouver la communauté des disciples pour raconter. Voilà ce qui nous est arrivé, voilà ce qui est arrivé à Pierre, à Marie, à Jean. Et ils se racontent les apparitions du ressuscité jusqu'à risquer un mot de foi, mon Seigneur et mon Dieu, comme on l'entendait dans l'évangile dimanche dernier avec Thomas.
Oui, c'est vrai. Comment sont choisis les membres de ces équipes d'animation pastorale?
Alors, la manière de faire, c'est tout simplement que c'est le curé, les prêtres, les diacres, le curé qui appelle des personnes et les présente à l'évêque. Et c'est important que ce soit le curé, parce que c'est lui qui est au plus proche du peuple de Dieu. C'est lui qui a une mission particulière pour un temps donné comme pasteur de la communauté, comme responsable de la communauté. Et le curé connaît ses oies, il connaît ses brebis, quoi. Voilà, comme un bon pasteur. Et il les présente à l'évêque, parce que je crois que c'est important, cette dimension. On aurait pu appeler les équipes d'animation paroissiales. On serait resté dans quelque chose de bien, bien local, localisé, alors que la dimension d'équipe d'animation pastorale, elle amène ce lien avec la communauté du diocèse. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé avec, pour la première fois, avec les six équipes d'animation pastorale du diocèse. Hein. Certaines sont déjà reconnues et envoyées en mission, d'autres sont encore en cours de constitution et vont être envoyées en mission dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais le lien avec le diocèse est essentiel, parce que nous sommes un même peuple de Dieu en Ariège, et l'organisation du peuple de Dieu, elle se fait autour de son pasteur, autour de l'évêque, avec ses conseils, etc.
Et concrètement, vous, en tant qu'évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, vous les envoyez donc en mission. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un geste précis?
Alors, je leur remets la charte des EAP et une lettre de mission qui rappelle un peu quelle est leur mission, et qui dit, en gros, la durée aussi de la mission, parce que c'est important d'avoir une durée pour
ne
une
pas
mission.
S'accrocher.
Sinon, on s'installe et on ne sait plus où on en est. Alors que quand on sait qu'on en a pour 3 ans, pour 6 ans, eh bien, on va se donner, après un temps d'analyse, de découverte aussi. On va se donner à fond parce qu'on sait que à un moment donné, cette mission s'arrête et d'autres vont prendre le relais et continuer. Alors, ça se fait enfin d'une eucharistie, tout simplement, où toute la communauté est rassemblée. Il n'y a pas d'autres messes dans la paroisse. Tout le monde se retrouve dans la même église et à la fin de la célébration, l'évêque envoie l'équipe d'animation pastorale en mission. Alors, la liturgie, elle est très simple. Hein. C'est le curé qui appelle les personnes. Les personnes se présentent à l'évêque et l'évêque entend le curé lui dire « Voilà, père, je souhaite que ces personnes-là soient envoyées pour constituer l'EAP de notre paroisse. » J'invite à ce moment-là les personnes à se rapprocher tout simplement. Il y a 5, 6, 7 personnes en général. Elles posent chacune en même temps la main sur la crosse de l'évêque.
Ah.
Et à un moment donné, c'est ce lien avec le bâton pastoral de l'évêque. Nous faisons partie de la même mission, quel que soit le lieu de l'Ariège où nous sommes envoyés. C'est ça qui est symbolisé derrière. Et à un moment donné, je lâche la crosse qui tient tout seul dans la main de ses collaborateurs, d'un curé et d'une paroisse, et en même temps des collaborateurs de l'évêque dans chaque paroisse du diocèse. Et je leur remets la charte des EAP et leur lettre de mission. En les remerciant pour leur réponse à cet appel, parce que c'est toujours un appel et une réponse. Abraham, il dit « me voici », il y en a encore aujourd'hui qui disent « me voici
», heureusement.
Au moment de la confirmation, au moment d'un baptême, au moment de l'envoi d'une équipe d'animation pastorale, et je trouve que c'est très beau, et ça se termine par la bénédiction solennelle de l'Assemblée, et voilà. Et un verre de l'amitié toujours, parce que je crois que les apôtres qui se mettaient en commun, quand on lit les actes des apôtres, ben, ils mangeaient aussi ensemble.
Oui,
ils
priaient, vous avez parlé de temporalité,
ils partageaient. Je crois que cette dimension de la convivialité, elle est essentielle. On a besoin de temps authentique pour construire une communauté, quoi.
Oui.
Et le verre de l'amitié, ça sert à ça aussi.
Ça en fait partie. Le pape François définissait la synodalité comme un style, une attitude qui nous aide à être Église en promouvant d'authentiques expériences de participation et de communion. Est-ce que justement cette implication des équipes d'animation pastorale, c'est une manière de vivre la synodalité, Monseigneur ?
Complètement, hein. C'est marcher ensemble en méditant la parole de Dieu, c'est prier l'Esprit de nous éclairer. Moi j'ai envie de dire la synodalité, c'est un art de vivre, ça devrait être naturel dans tous les lieux d'Église, c'est se dire qu'est-ce que je dois faire là, comment je le fais, pourquoi, à quoi Dieu m'appelle, mais c'est aussi repérer avec d'autres les signes de Dieu dans notre monde aujourd'hui, quoi. C'est se dire mais Dieu il travaille, il y a des choses qui se passent, qui n'ont été décidées ni préparé par personne. Regardez simplement cet afflux de catéchumènes de tous âges que nous avons dans l'Église de France aujourd'hui. On est encore dans le temps pascal, on voit bien ce qu'on a célébré à Pâques et ses baptêmes. C'est génial, mais c'est un signe de Dieu pour son Église aujourd'hui. Et la synodalité, c'est à la fois travailler ensemble, prier ensemble, réfléchir ensemble, décider ensemble, mais c'est aussi regarder ensemble les signes du règne de Dieu qui vient.
Oui. Oui, c'est vrai, il ne faut pas rester dans son entre-soi, dans son petit cocon et se dire qu'on a toujours fait comme ça et finalement ne pas regarder la mission et toutes ces personnes qui arrivent et qu'il faut accueillir et avec qui il faut avancer finalement.
Absolument, et c'est vrai que c'est tellement plus simple de rester là où on en a été depuis toujours, on a toujours fait comme ça, que de se laisser bousculer par l'esprit, parce qu'on perd des certitudes et en même temps, on gagne une autre certitude, c'est que, comme Jésus l'a dit, hein, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, et il y a des signes qui nous sont donnés de cette présence du Christ au milieu de nous jusqu'à la fin des temps.
Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Kvin. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix, et on reste sur cette lecture des Actes des Apôtres, hein, qui est vraiment un guide pour tout ce temps pascal et pour la vie de l'Église.
Merci Isabelle, bon temps de Pâques et à bientôt à Pentecôte.
Et à bientôt. Au revoir Monseigneur.
Au revoir.